La part de Christ. Les souffrances et les gloires dans quelques psaumes. Par Georges André. Deuxième partie, les gloires qui suivraient. Les psaumes que nous allons considérer parlent de la gloire. Qu'est-ce que la gloire? Pensant à nous-mêmes, un chrétien du siècle passé disait « La gloire, ce sera de voir ». 1 Corinthiens 13, verset 12. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. Mais quant à Dieu lui-même, sa gloire, peut-on dire, est l'effusion de ses perfections. Quand Moïse dit à l'Éternel « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui répond « L'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33, verset 20. Dieu fait pourtant quelque chose de magnifique vis-à-vis de Moïse. Il le met dans la fente du rocher et fait passer devant lui toute sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Et Moïse voit par derrière quelque chose de merveilleux, une trace qui ne s'efface pas. Pour nous, la gloire n'est pas insoutenable. Nous l'atteignons par le chemin de la grâce. La fente du rocher nous parle de l'œuvre de Christ. Par cette œuvre, nous sommes amenés progressivement jusqu'à cette face découverte de 2 Corinthiens 3, verset 18. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. En vertu de l'Esprit qui nous enseigne dans les Écritures, nous sommes placés face à face avec celui qui les remplit, et, en esprit pour le moment, mais bientôt en réalité, nous le regardons, et lui, il nous regarde. Cinquième partie, psaume 16. La gloire morale du Seigneur Jésus, versets 1 à 8, après la perfection de sa vie, la résurrection et la gloire, versets 9 à 11. Psaume 16.
Mictam de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées. Je ne répandrai pas leur libation de sang, et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables, oui. Un bel héritage m'est échu. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil. Durant les nuits même, mes reins m'enseignent. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme s'égaie, même ma chair reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie, et il y a des plaisirs à ta droite pour toujours.
Le psaume 22 correspondait à l'Holocauste. Dans l'institution de Lévitique 2, celui-ci était suivi par l'offrande de gâteau, à laquelle se réfère notre psaume. C'est l'ordre divin. Nous allons donc considérer la gloire morale de la vie du parfait serviteur. Le psaume 22 nous faisait connaître, dans une mesure, les sentiments de notre Seigneur sur la croix. Le psaume 16 propose à notre méditation et à notre adoration les ressorts secrets de son âme lorsqu'il a été vu ici-bas comme un homme serviteur parfait. Notre texte répond en quelque sorte à une question posée au psaume 15, verset 1er.
Éternel, qui demeurera en ta montagne sainte,
autrement dit, qui peut se tenir dans la présence de Dieu. Le verset 2 donne la réponse.
Celui qui marche dans l'intégrité et qui fait ce qui est juste.
Au psaume 14, l'Éternel avait regardé des cieux sur les fils des hommes pour constater qu'il
n'y a personne qui fasse le bien, non, pas même un seul.
C'est alors comme si, avec ce psaume 16, l'Éternel venait dire « Oui, il y en a un. Je l'ai regardé des cieux, et j'ai eu en lui tout mon plaisir. » Considérons quelques rayons de la gloire morale de notre Seigneur lorsqu'il a été vu ici-bas. Dans une dépendance complète, il a pris la position d'un homme devant Dieu. On pourrait se demander si ce psaume 16 s'applique vraiment au Seigneur Jésus, disant
« Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. »
Par la foi, on est gardé des circonstances extérieures, des attaques de l'ennemi, de soi-même. Il est évident que notre Seigneur n'avait pas besoin d'être gardé de cette manière. Dans la plénitude de son être, il commandait aux éléments. Ses ennemis reculaient quand il disait
« C'est moi »,
et comme on l'a dit, il n'y avait point de moi en lui. De fait, dans ce psaume, il prend volontairement sa place d'homme et se soumet à son Dieu. Dans cette condition, il ne s'adresse pas au Père, mais à Dieu. Parfaite position d'un homme devant son Dieu, dépendance exprimée par la prière, verset 1. Dans l'Évangile, lorsqu'il s'agira de faire le choix de ses disciples, en particulier de celui qui le livrera,
« Il passa toute la nuit à prier Dieu. »
Luc 6, verset 12.
Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Si quelques doutes subsistaient encore que ce psaume 16 se réfère bien essentiellement au Messie, il suffirait de considérer acte 2, où l'apôtre Pierre le cite en relevant les paroles de David à son sujet dans les versets 25 à 31.
Car David dit de lui, « Je contemplais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a tressailli de joie, et plus encore ma chair aussi reposera en espérance. Car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par le regard de ta face. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire avec liberté touchant le patriarche David, et qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un suscité du fruit de ses reins sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. »
Au verset 2, dans cette position d'homme prise volontairement, il fait en quelque sorte acte de soumission à son Dieu, sans réclamer aucune prérogative.
« Tu es le Seigneur. »
Dans l'Évangile, un chef s'approche de lui et l'appelle
« Bon maître. »
Et Jésus de lui répondre en toute humilité
« Nul n'est bon, sinon un seul Dieu. »
Marc 10, versets 17 et 18.
Et comme il sortait sur la route, un homme accourut, et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. »
Le jeune homme ravale Jésus au niveau des hommes, et lui-même accepte une telle position. Au verset 3, il prend place avec ceux qu'il appelle les saints qui sont sur la terre. C'est la scène de l'Évangile quand Jésus vient de Galilée au Jourdain, où venaient vers Jean ceux qui se repentaient et confessaient leurs péchés. A-t-il, lui, pur et saint, besoin de prendre place au milieu d'eux? Jean l'en empêchait fort, mais Jésus lui dit,
il nous est convenable d'accomplir toute justice. C'était juste que dans la position d'homme qu'il avait prise, il s'associe avec ceux qui prenaient une telle attitude devant Dieu. L'homme parfait montre encore une gloire à laquelle il répond parfaitement, la fidélité, verset 4. Il se sépare moralement, complètement de ceux qui courent après un autre, l'Antichrist. Il ne s'associe nullement à leur rite d'adoration. Plus d'une fois dans l'Évangile, il élèvera sa voix vers son Père. Lorsque le diable le tente et lui offre tous les royaumes de la terre, il répondra « Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, verset 10. Dans les psaumes considérés précédemment, nous avons vu combien le Seigneur a souffert ici-bas. Mais dans nos versets 5 et 6, nous discernons, dans le profond de son être, des sentiments de satisfaction, à voir l'Éternel pour la portion de son héritage et de sa coupe. Il ne s'appesantit pas sur son lot quotidien de souffrance. Sur la terre, il y avait dans le secret de son âme ce qui dépassait infiniment toute la gloire terrestre qu'il aurait pu avoir. Il a l'Éternel pour sa portion. Pour le présent, cela lui suffit. Bien sûr, en lui-même, il avait toute connaissance. Il était la sagesse. Et pourtant, comme homme dépendant, il se laisse enseigner.
L'Éternel me donne conseil,
même pendant les nuits. Dans l'intégrité de son cœur, il peut exprimer
« Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. »
On se souvient de son affirmation en Jean 8, verset 28.
« Je ne fais rien de moi-même, mais selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. »
En Jean 14, verset 31, il affirme
« Selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. »
Dans ses paroles, comme dans ses actes, il n'a qu'une chose devant lui, une obéissance parfaite. Quelle est la réponse à toute cette dépendance, cette confiance, le résultat de cette communion? C'est la joie du cœur.
Mon cœur se réjouit et mon âme s'égaie.
Verset 9. S'agit-il de son âme? Il sait qu'elle ne sera pas abandonnée au Shéol. S'agit-il de son corps? Il n'a aucun doute qu'il ne verra pas la corruption. Verset 10. En regardant au-delà de la mort, il voit la résurrection et jusqu'à la gloire de Dieu. Déjà son cœur se réjouit. Ce cœur a été affligé, blessé, fondu. Devant lui se présentait alors la coupe que le Père lui donnait à boire, l'abandon sur la croix. Son âme très sainte ne pouvait qu'en souffrir profondément. Malgré tout, comme homme, il se confie en Dieu. Il avait, lui, le pouvoir de se ressusciter, mais il a l'assurance, dans cette condition humaine qu'il a prise, que son Dieu ne l'abandonnera pas au Shéol, qu'il ne verra pas la corruption. En quelque sorte, depuis le ciel, le Père contemple le corps inanimé de son Fils bien-aimé. Il en prend soin jusqu'au jour glorieux où
« Tu me feras connaître le chemin de la vie. »
Le chemin passera par le puits et le bourbier fangeux, mais il aboutira à la vie. En acte 2, verset 28, il deviendra les chemins de la vie, chemins qui seront la part de tous les rachetés pour lesquels il s'est donné lui-même. Acte 2, verset 28.
Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par le regard de ta face.
Il est pour eux le chef et le consommateur de la foi. Les prémices de la résurrection, son chemin de lumière et de sainteté, où il a glorifié le Père, le mène à la gloire, entraînant après lui tous ceux qui lui appartiennent. La face qui s'était détournée de lui dans la nuit du calvaire devient un rassasiement de joie.
Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours.